rapide a établi pour la direction du chant, depuis le verset 31, dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos, il a établi plusieurs personnes. Ils remplirent des fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kehatites, Héman, le chantre, fils de qui? Fils de Joël. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Et Joël était fils de qui? De Samuel. Donc vous voyez, on passe sur ces textes et on y découvre, quand on s'y arrête, que malgré que Joël, fils de Samuel, n'a pas bien marché, il a eu un fils qui s'appelait Héman. Donc le petit-fils de Samuel, lui, a bien marché. Donc Dieu, dans sa grâce, a accompli ce qu'il avait dit. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Héman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, et puis vous pouvez aller plus loin. Mais prenez encore un autre passage, toujours dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 25, si vous voulez, verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asa, qui a écrit plusieurs psaumes, d'Héman, alors vous retrouvez Héman, qui est fils de qui? De Joël, et de Jestudun, qui prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Aza, puis il y a les noms qui sont donnés. Hein. De Jétudun, des fils de Jétudun, et les noms sont donnés. Ils prophétisaient avec la harpe pour louer l'Éternel. Et verset 4, d'Héman. Les fils d'Héman. Et combien est-ce qu'il en a eu de fils? Un vrai Québécois. 14. Et puis combien de filles? 3. D'Héman, et je ne vais pas vous lire tous les noms, les fils d'Héman, Butija, Matania, etc. Puis verset 5, tous les fils d'Héman qui étaient voyants du roi. Donc le petit-fils de Samuel était voyant du roi, pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient sous la direction de leur mère, de leur père. Hein. Donc on peut encore être sous la direction des pères. Tous ceux-là, c'est beau, hein? Combien ça faisait d'enfants? 14 et 3? 17. 17 pouvaient être sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asa, Jétudun et Héman recevaient les ordres du roi. Et donc, ils travaillaient ensemble. Ils étaient plusieurs ensemble, des familles ensemble, hein, qui servaient le Seigneur. Voilà la grâce de Dieu qui, malgré tout, se manifeste dans la vie des descendants de Samuel. Mais Joël, le fils de Samuel, ne marchait pas dans les voies de son père. Mais les enfants de Joël, Héman, et les petits-enfants ont été fidèles à Dieu. Voilà qui peut nous encourager. Et alors, en finale, le roi David. Quand on devenait roi en Israël, on devait, selon la loi de Moïse, copier personnellement la loi du Deutéronome au chapitre 17e. Je prends simplement ce verset du chapitre 17e. au verset 14e. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Alors David avait été choisi par l'Éternel. Mais tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de quoi ? De femmes. Afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne se fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Eh bien, David savait cela. Et alors, quand nous étudions la vie de David, je vais vous demander de la méditer. La première femme qu'il a eue, comment est-ce qu'il l'a eue? Il l'a achetée en tuant combien d'hommes? 200. Mais qu'est-ce que Saül lui avait demandé? 100. 100 prépuces de Philistins. Et David, il en apporte 200. Donc il a été un homme de sang. Il a tué 200 personnes pour avoir Mical, drôle de marché. Et puis, vous savez ce qui s'est passé avec Mical. Puis après, quand vous lisez le chapitre 25, il épouse une veuve qui est remarquable, qui s'appelle Abigail, mais il a déjà encore une autre femme, Akinoam. Et pourtant, il sait qu'il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Mais Abigail lui a rendu service. Abigail est une belle femme. Il prend Abigail. Puis après, il prend Akinoam. Parce que c'est quand même un peu sa passion. Puis après, il pense, quand il va devenir roi, il faudrait bien que j'aie une femme de sang royal. Et qu'est-ce qu'il avait dû écrire? Tu ne prendras pas quelqu'un d'étranger. Mais pour avoir du sang royal, eh bien, il épouse Maka, la mère qui va lui donner Absalom et qui est fille du roi de Guessur. Et il a un fils qui est magnifique, qui est d'une beauté remarquable, et qui s'appelle Absalom, et puis qui a une sœur qui s'appelle Tamar, qui est une très belle fille. Puis avec une autre femme, eh bien, David a aussi un autre fils qui s'appelle Amon, et puis il a encore une autre femme qui s'appelle Agit, qui lui donne un fils qui s'appelle Adonija. Donc vous voyez le nombre de femmes que David prend. Puis il en a encore une qui sera Bathsheba. Voilà le tableau de David. Alors ça lui donne pas mal d'enfants. Mais ce qui montre la faiblesse de David, quand même, avec toutes ses femmes, eh bien, à un moment donné, et quand il est à Jérusalem, alors qu'il aurait dû aller en campagne avec l'armée, il reste à Jérusalem, peut-être pour se reposer, et puis il se lève de son lit, il se promène, il s'ennuie, puis là, il voit une femme qui est en train de se laver dans une autre maison, sur ses toits plats, il la convoite, il a pourtant des femmes, il a pourtant des concubines, et il est passionné, il veut cette femme, il l'a, et puis une fois qu'elle est partie, eh bien il est satisfait, mais il a péché contre le Seigneur, parce que c'est la femme d'un autre. Qu'est-ce qu'il a fait de Bathsheba? Une femme adultère. Mais comme c'est le roi qui est responsable, je ne vais pas enlever la responsabilité à Bathsheba, mais une femme qui est demandée par le roi, elle est presque obligée de se soumettre. Et voilà notre David, le doux psalmiste d'Israël, qui écrit tous ses psaumes, qui en est là, dans sa passion avec les saints. Puis la pauvre, elle revient au bout d'un mois en lui disant, je suis enceinte. Il n'y avait pas de condom. Temps-là. Voilà, c'est comme ça la Bible, hein. Elle vous dit les choses telles qu'elles sont. Et vous savez ce qui est arrivé, il est devenu un assassin. Il avait tué Uri, puis après, bon roi, il épouse la veuve. Mais ce qu'il a fait déplut au Seigneur, mais quand il est visité par Naaman, par Nathan, le prophète, il confesse son péché, il dit « J'ai péché contre l'Éternel, j'ai péché. » Et il écrit le psaume 51, qui est sa confession. Un psaume magnifique qui était bon pour la restauration d'une multitude d'hommes qui sont tombés eux aussi. Mais alors vous comprenez que, ayant vécu de cette façon-là, comment élever ses enfants? Ça a été une catastrophe. Les enfants de David, comment faire la morale à vos enfants quand vous-même, père, vous ne vivez pas d'une façon régulière? Quand Amon a violé la sœur, c'est sa demi-sœur, la sœur d'Absalom, qui s'appelait Tamar, dans cette histoire très triste, eh bien, David, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il ne peut rien dire à Amon, parce qu'il a fait la même chose. Papa fait comme ça, pourquoi moi je ne prendrais pas ma sœur? Il détruit son autorité. Père, soyez des pères responsables. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir chez vos enfants? Eh bien, ne le faites pas, surtout si vous invoquez le nom du Seigneur. Mais David, malgré toute la connaissance qu'il avait de l'Écriture, eh bien, il n'a pas agi avec fidélité, et il a eu les conséquences. Vous savez que Absalom a tué après Amon, son demi-frère, pour venger sa sœur, et lui-même ensuite, Absalom, a voulu tuer qui? Son père. Voilà, un fils qui en arrive à vouloir tuer son propre père. Et quand, ça me bouleverse toujours, quand c'est Absalom qui meurt, tué par Joab, qui est le cousin germain de David, eh bien, quand il apprend la mort d'Absalom, vous voyez notre David qui se tient la tête et qui crie « Absalom, mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» Vous pouvez dire un tas de choses. « Que ne suis-je mort à ta place ?» Mais vous ne réparez pas cela. Quand on désobéit à l'Écriture, on peut être un bon roi David, on peut être le doux psalmiste d'Israël. Ça ne passe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez faire autrement que ce que dit l'Écriture. Mais souvenez-vous de l'exemple de David, un roi qui n'a pas su être un père. Et pour quelle raison? Eh bien, revoyez de 1 Roi, chapitre 1, verset 6, seulement pour que vous en ayez la conviction que je n'invente rien. Quand Adonija, un de ses fils, a voulu prendre le pouvoir, eh bien, il est dit quelque chose qui révèle le caractère de David. Verset 5. Adonija, fils de Haggith, donc une des femmes de David, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, parce qu'on voyait que le père allait mourir, « C'est moi qui serai roi. » Et il se procura des chars, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Et verset 6, soulignez-le dans votre Bible. Son père ne lui avait dit de sa vie, il ne lui avait fait de sa vie aucun reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Le père n'avait jamais rien reproché à son fils. Il lui avait jamais demandé « Pourquoi agis-tu ainsi ?» C'est cela votre responsabilité. Et c'est votre privilège de vous occuper de vos enfants. Vous vous occupez d'une foule de choses. Vous avez des plantes, vous voulez des fleurs. Eh bien, vous vous en occupez pour que ce soit beau. Et puis vos enfants, qui sont les plus belles plantes, vous ne vous en occuperiez pas. C'est à vous, père, et moi, de prendre mes responsabilités, et pas seulement de père, mais aussi de grand-père, ou peut-être arrière-grand-père un jour, que le Seigneur nous parle. Et dans l'histoire de Bathsheba, quand le premier fils de l'adultère est mort, alors David a compris quelque chose, et il a dit, ce n'est pas à moi qui irai, c'est pas à lui qui viendra vers moi, mais c'est moi qui irai vers lui. Puis, quand Dieu lui donne avec Bathsheba un second fils qui s'appellera Salomon. David, oui. Qu'est-ce qu'il fait? À qui confie-t-il Salomon? Au prophète. Il sent bien que lui, il a foiré et qu'il n'est pas capable de l'élever. Alors il lui donne un précepteur. Et comme précepteur, qui est-ce qu'il lui donne? Nathan, le prophète, celui qui est venu le reprendre. Et c'est Nathan qui a appelé Salomon Yédidia, parce que David n'était pas capable de l'élever. Mais Salomon, qui a été élevé par un prophète, qui a été tellement bien, mais dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quand même du sang de son père, drôlement. Hein? Il a pris, lui aussi, 700 femmes et 300 concubines. Vous comprenez qu'on meurt à 60 ans après ça. Et c'est vrai, Salomon est mort à 60 ans. Il était jeune. Hein? Et lui avait écrit que si tu persévères dans la parole du Seigneur, tu prolongeras tes jours. Il l'avait dit, c'est un texte de Salomon qui est inspiré quand il avait la sagesse. Mais tout ce qu'il a écrit, il ne l'a pas mis en pratique. Alors voilà pourquoi nous vous disons, nous retombons dans notre épître de Jacques. Nous disons que nous avons la foi, nous disons que nous avons des connaissances. Mais si nous ne pratiquons pas ces choses, si c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard, l'effet de la parole, si comme Jésus devait le dire, ma parole n'a pas d'accès auprès de vous, eh bien, notre vie, ça sera un échec. Et vous n'avez pas à dire que c'est la faute de Dieu. C'est notre faute de père. Nous avons comme père une responsabilité et un privilège, c'est d'élever nos enfants dans la crainte du Seigneur. Mais la première chose à faire, c'est de marcher d'une façon digne du Seigneur. C'est de collaborer avec nos épouses, notre femme, pour que nous ayons toujours la même pensée, élever notre enfant dans la crainte du Seigneur. Que Dieu nous bénisse par sa parole, que vous continuez à méditer et que vous puissiez vous dire, c'est quand même extraordinaire d'avoir en main un tel livre qui nous dit les choses d'une façon si limpide et si claire. Comme je vous l'ai dit souvent, il n'y a pas de tabou dans l'écriture, mais toute l'écriture est sainte. Et c'est pourquoi l'année dernière, nous avons pu parler du cantique des cantiques sans en avoir honte. Dieu notre Père, nous nous courbons devant toi et nous te demandons que cette semaine de camp familial ait un prolongement dans nos vies, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous nous mettions à l'œuvre et que nous aimions davantage nos enfants, que nous sachions prendre du temps pour eux pendant qu'ils sont petits, et qu'aussi tu nous donnes d'avoir à leur égard des pensées de modestie. Tu vois combien de parents ont perdu leurs enfants par leur ambition. Tu nous as parlé d'une mère ambitieuse, mais elle était ambitieuse pour ses enfants, pour le Seigneur Jésus. Mais combien souvent nous sommes ambitieux pour que nos enfants aient une position que nous n'avons pas pu avoir, dont nous nous sommes sentis frustrés, et quelquefois nous exagérons et nous arrivons à placer nos enfants sur le chemin du monde. Et c'est notre propre faute. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous voulons te demander pardon et te demander que nous soyons plus évangéliques et que, dans ta grâce, nous puissions nous associer aux choses humbles. Ne nous donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-nous du pain qui nous est nécessaire. Et que dans ta grâce, nous soyons heureux d'avoir un Père qui nourrit les oiseaux du ciel, qui revêt les lys des champs et qui nous dit que nous valons beaucoup mieux qu'eux. Donne-nous cette confiance. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin pour que nos enfants, nous puissions les élever afin qu'ils soient beaux pour toi et qu'un jour, nous puissions avoir la joie de les voir te servir et t'aimer, parce qu'ils auront eu aussi des pères et des mères qui aiment et qui te suivent en Jésus-Christ. Amen.